Lors de la précédente émission, nous avions laissé l'apôtre Paul en prison, dans la ville de Philippe, en Macédoine. Les habitants de la ville lui avaient reproché un exorcisme, celui d'une jeune servante qui avait ainsi perdu un précieux don de divination. Et surtout, ce don était très lucratif pour les maîtres de cette servante. Et c'est ceux-ci, furieux, qui ont dénoncé Paul et ses compagnons aux autorités romaines. Ils les accusaient d'être juifs, pratiquant d'une religion plus ou moins en conflit avec Rome à ce moment-là. Donc Paul et Silas furent arrêtés, flagellés publiquement et jetés en prison ensuite, attachés dans des fers. On pourrait les imaginer anéantis et désespérés, mais pas du tout. Leur foi était beaucoup plus forte que toutes ces circonstances adverses, et nous le savons grâce au texte des Actes des Apôtres de Saint Luc, donc, qui raconte cet épisode de la vie de Paul, chapitre 16 des Actes, verset 25, qui dit « Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. » Voilà. Quelle leçon. Ils chantent les louanges de Dieu dans une telle situation. Aucune plainte, aucun gémissement sur son sort, mais simplement l'expression sereine de la foi en Dieu. Alors le texte des Actes nous dit ensuite « Aux environs de minuit, tout d'un coup, il y eut un tremblement de terre, si violent que les fondations du bâtiment en furent ébranlées. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même, et les liens de tous les prisonniers sautèrent. Tiré de son sommeil, le geôlier vit les portes de la prison ouvertes, et pensant que les prisonniers s'étaient évadés, il saisit son épée et allait se supprimer. » Voilà, j'arrête là parce qu'il faut vous dire qu'être gardien de prison à cette époque était un métier redoutable, parce que si un geôlier laissait échapper un prisonnier, il devait subir le sort de celui qui s'était évadé. Alors vous pensez, si toute une prison se vide d'un seul coup, il y avait de quoi avoir peur de la sanction. Mais alors là, chose surprenante, la voix de Paul retentit du fond de la cellule et Paul crie d'une voix forte « Ne fais rien de funeste pour toi, nous sommes tous là !» Le geôlier demanda de la lumière, se précipita à l'intérieur et tout tremblant, il se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Alors voilà une situation bien cocasse qui veut d'abord nous montrer quel calme et la sérénité et la maîtrise de soi dont Paul fait preuve dans cette situation. Et les autres prisonniers sont tellement étonnés qu'il a réussi visiblement à les convaincre de ne pas s'enfuir. Et de même, l'attitude de Paul est suffisamment impressionnante pour que le geôlier tombe tout tremblant à ses pieds. Alors, est-ce que tout ça est bien exact, ou plutôt un peu embelli par Luc, rédacteur des Actes? À mon sens, je dirais que Saint Luc a voulu surtout marquer les esprits de ses lecteurs en décrivant une scène d'une manière presque caricaturale. C'est très concentré, un peu raccourci, exagéré. Mais il est tout aussi évident que la personnalité extraordinaire de Saint Paul avait suffisamment marqué tous ceux qui l'entouraient pour que tout ça soit vrai, même si ce n'est pas tout à fait réel. Hein, c'est juste un peu amélioré. L'intention de l'auteur est là, je crois, pour préparer la suite du texte qui est bien plus importante encore pour le message qu'il veut faire passer. Je vous lis maintenant la suite, donc chapitre 16 des Actes, versets 30 à 34. « Puis le geôlier les ayant fait sortir, il leur dit, « Mes seigneurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils annoncèrent alors la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa demeure. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. et aussitôt il reçut le baptême avec tous les siens. Puis il fit monter chez lui Paul et Silas, fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Alors après ce petit passage, nous pouvons de nouveau nous poser la question de l'exactitude du récit. Bon, peu importe, ce qui est sûr, c'est qu'il veut nous signifier que le gardien de la prison pose d'abord une question bien concrète, hein, qui concerne sa survie directe. Hein, la prison s'est ouverte, et à mon sens, il est probable quand même que les autres prisonniers risquent de ne pas attendre éternellement qu'on reverrouille les portes. Il demande à Paul « Que dois-je faire pour être sauvé des représailles ?» Or, la réponse de l'apôtre, elle est curieuse. Il passe de l'idée d'avoir la vie sauve dans l'immédiat à celle de recevoir le salut éternel par le baptême au nom de Jésus-Christ. Ah, alors, c'est ça qui est important dans ce texte. Ça nous montre que Paul peut retourner une situation tragique en une évangélisation où tout finit par de nombreux baptêmes avec des réjouissances. Le vrai miracle dont nous parlent les Actes des Apôtres, c'est en fait la formidable puissance missionnaire de Paul, sa capacité de produire des conversions, de toucher les cœurs et en très peu de temps de faire naître des communautés chrétiennes partout où il passe, à travers tous les obstacles qu'il peut rencontrer. Mais l'histoire n'est pas encore finie, car le matin venu, les autorités romaines, ayant sans doute réfléchi, vont décider que la punition qu'on a infligée à Paul et Silas est suffisante et qu'on peut maintenant les libérer. Donc le geôlier est prévenu par des envoyés et il communique cette bonne nouvelle à Paul. Je vous lis la suite donc dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 36-37. Le geôlier dit « Les magistrats ont envoyé dire de vous relâcher. Sortez donc maintenant et partez en paix. » Mais Paul déclara « Ils nous ont fait flageller en public, sans jugement, alors que nous sommes citoyens romains. Ils nous ont jetés en prison. Et maintenant c'est à la dérobée qu'ils veulent nous faire partir. Il n'en est pas question. » Qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. Voilà. Donc, plusieurs choses à souligner ici. D'abord, qu'il n'est absolument plus question de l'ébranlement de la prison par un tremblement de terre qui a ouvert les portes et laissé échapper tous les prisonniers. Oubliez. L'événement avait quand même dû faire du bruit, mais on n'en parle plus. Ensuite, remarquons quand même que décidément Paul a un sacré caractère. Alors qu'il pourrait profiter de l'adoucissement des Romains pour partir discrètement, au contraire, il saisit l'occasion pour les défier en leur faisant savoir qu'il est lui-même citoyen romain et qu'il exige des excuses publiques pour avoir été maltraité au mépris des lois. Oui, en effet, le droit romain interdisait de soumettre un citoyen romain à la flagellation. Donc c'est les magistrats eux-mêmes qui risquaient d'être punis d'avoir fait ça. Alors, visiblement, Paul est obstiné, hein, et il retourne s'asseoir dans la prison. Et il y attend les magistrats romains de pied ferme. Alors, je reprends la lecture, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 38. Les gardes rapportèrent ces paroles aux magistrats, et ceux-ci furent pris de peur en apprenant leur qualité de citoyens romains. Ils vinrent donc s'excuser auprès d'eux et les libérèrent en leur demandant de quitter la ville. Alors une fois sortis de la prison, Paul et Silas allaient retrouver Lydie, virent les frères pour les encourager, puis ils repartirent. Voilà. Paul est satisfait, il a réussi à faire peur à ses juges un peu abusifs et a retrouvé toute sa dignité, donc il peut partir en paix. Alors, je pense que de ce texte, il faut aussi comprendre, ou de même de cette situation, que Paul a vu là un bon moyen de protéger la petite communauté chrétienne qui s'est construite donc autour de Lydie. Et ensuite, quand Paul s'en va, ça permet de les protégés d'éventuelles persécutions. Désormais, les autorités romaines locales vont se montrer plus prudents parce qu'on ne sait pas des fois qui est citoyen romain dans tous ces chrétiens. Voilà. On peut aussi penser que dans ce récit de Luc, on veut entendre que Paul a déjà le projet de porter la foi chrétienne au loin vers Rome.
Alléluia.
En quittant la petite communauté chrétienne de Philippe, Paul et ses compagnons, donc Silas, Timothée, se remirent en route, probablement en suivant la route romaine qui longe la côte, la Via Ignatia, vers une autre ville, cette fois très grande ville, Thessalonique, qui est la capitale de cette province romaine de Macédoine. Paul y arrive sans doute vers l'an 50. À cette époque, Thessalonique est un grand port, donc, et une cité commerciale florissante, où vivaient de nombreux étrangers, et parmi eux, une importante colonie juive. Il y avait donc une synagogue, et c'est là que Paul va se rendre et prendre part aux célébrations du sabbat. Il va y prendre la parole pour enseigner la communauté juive. Donc, encore une fois, bien que son ministère a été clairement orienté vers la conversion des païens, Paul commence d'abord par s'adresser aux Juifs. Et voici ce que dit donc le texte des Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 2 à 4. « À partir des Écritures, il expliquait et établissait que le Messie devrait souffrir, ressusciter des morts, et disait-il, le Messie, c'est ce Jésus que je vous annonce. Certains des Juifs se laissèrent convaincre et furent gagnés par Paul et Silas, ainsi qu'une multitude de Grecs adorateurs de Dieu et bon nombre de femmes de la haute société. » Voilà, donc Paul va d'abord s'adresser aux Juifs, et se sert des Écritures, donc de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, pour établir une prédication assez directe, démontrer la messianité à partir donc des textes du judaïsme. En résumé, il disait « Vous attendez le Messie, moi je vous annonce qu'il est venu et que c'est Jésus. » Alors certains des Juifs, visiblement, se laissèrent convaincre, mais surtout, c'était ceux qui, d'origine grecque, étaient plus récemment convertis à la foi d'Israël. Souvent, la foi juive attirait les Grecs parce que ça contrastait tellement leur monothéisme avec le polythéisme grec que ça fascinait. C'était tellement différent de leurs habitudes religieuses. Alors, est-ce que c'est vraiment par une attente du monothéisme? Peut-être, oui. Mais aussi, certains historiens disent que c'est surtout ce qui attire, c'est l'exotisme. Hein. C'est encore comme ça aujourd'hui. Tout ce qui est différent vous attire, surtout les religions venues d'Orient. Et c'était déjà comme ça, et particulièrement vrai pour les femmes de la haute société grecque, qui cherchaient toujours le dernier cri en matière de mode et se tenaient au courant des nouveautés, y compris religieusement parlant. En tout cas, leur attirance pour le judaïsme les avait en tout cas fait réfléchir et leur avait suffisamment ouvert l'esprit pour qu'ils soient plus facilement réceptifs aux paroles de l'apôtre Paul. Mais ce ne fut malheureusement pas le cas pour la grande majorité des juifs traditionnels que ce discours de Paul choqua. Voici ce que dit ensuite les Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 5 à 8. Mais les Juifs, furieux, recrutèrent des vauriens qui traînaient dans les rues, ameutèrent la foule et semèrent le désordre dans la ville. Ils se dirigèrent alors vers la maison de Jason à la recherche de Paul et Silas, qu'ils voulaient traduire devant l'assemblée du peuple. Ne les trouvant pas, ils traînèrent Jason et quelques frères chrétiens devant les magistrats. Ils criaient : Ces gens qui ont déjà soulevé le monde entier sont maintenant ici, et Jason les a accueillis chez lui. Tous ces individus agissent à l'encontre des édits de l'empereur. Ils prétendent qu'il y a un autre souverain, Jésus. Ces cris impressionnèrent la foule et les magistrats, qui exigèrent alors une caution de Jason et des autres avant de les relâcher. Voilà, donc devant la prédication de Paul, on dirait bien qu'il n'y a que deux réactions possibles. C'est ou tout oui ou tout non. Et ici, c'est non, mais un non véritablement enragé. On a frôlé le lynchage. Heureusement, vous avez remarqué que comme de nos jours, l'argent va servir de médiation pour apaiser les esprits. Une caution et tout se calme. Mais malgré tout, ces conditions-là vont faire que la petite communauté chrétienne naissante va faire profil bas et décide de mettre Paul et Silas à l'abri en les faisant partir vers une ville voisine, Bérée. On ne sait pas exactement combien de temps Paul est resté finalement à Thessalonique. À mon avis, quand même plusieurs mois, puisque lui-même dit dans une lettre qu'il écrira ensuite qu'il a pu y pratiquer son métier pour n'être à charge de personne. Bon, le temps de travailler, il faut quand même s'installer un peu. Et aussi, il est resté suffisamment longtemps à Thessalonique pour fonder une communauté chrétienne consistante et durable. Mais quand même, Paul se sent obligé de partir. Mais il va s'inquiéter pour ceux qui doivent rester là et apprendre à vivre leur foi chrétienne dans un contexte très hostile. Et c'est d'ailleurs à cause de son inquiétude que Paul écrira plusieurs fois aux Thessaloniciens pour les aider à tenir bon. Il restera toujours en contact avec eux par courrier ou par l'envoi de messagers fidèles. Dans sa première lettre, à peine quelques mois plus tard, il rendra grâce pour la qualité de leur foi. Voici ce que Paul leur écrit. Alors là, je cite la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 2-3. « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous quand nous faisons mention de vous dans nos prières. Sans cesse, nous gardons le souvenir de votre foi active, de votre amour qui se met en peine et de votre persévérante espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. » Et alors, un peu plus loin, toujours dans cette première lettre aux Thessaloniciens, « Vous nous avez imités, nous et le Seigneur, accueillant la parole en pleine détresse avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. » Voilà, Paul est donc plein d'affection pour ceux qu'il a réussi à évangéliser à Thessalonique. Et il reviendra sans doute les voir lors de son prochain voyage. Mais pour le moment, Paul est obligé de fuir les persécutions d'ennemis juifs qui accusent Jésus, vous avez remarqué, d'être un concurrent à l'empereur romain. C'est toujours l'argument, il veut prendre la place de l'empereur.
Amen.
Thessalonique, saint Paul arrive donc à Bérée avec ses compagnons. Bérée est une ville assez cossue, toujours située en Macédoine, à peine à 70 km de Thessalonique. Je vous lis ce que disent les Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 10 à 12. À leur arrivée, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de plus nobles sentiments que ceux de Thessalonique. Et ils accueillirent la parole avec une entière bonne volonté. Chaque jour, ils scrutaient les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. Et beaucoup d'entre eux devinrent croyants, ainsi que des femmes grecques de haut rang et bon nombre d'hommes. Voilà, donc la tactique missionnaire de Paul reste imperturbablement la même. Il rejoint d'abord la synagogue pour y annoncer le message chrétien. Et au début, tout se passe le mieux possible. Et il arrive à convaincre un petit groupe, en tout cas. Il n'y a en fait qu'un seul petit problème, là. C'est que Bérée n'est qu'à 2 ou 3 jours de marche de Thessalonique. Et comme les nouvelles circulent vite dans ce pays à cette époque, grâce aux échanges commerciaux, ça voyage beaucoup. Et à Thessalonique, on a vite fait d'apprendre que fait Paul, ce que fait auprès des Juifs de Bérée. Eh bien, aussitôt, ils envoient un groupe d'opposants qui se met en route vers Bérée et qui va venir là semer la même zizanie qu'ils ont semée à Thessalonique. Alors, ce coup-ci, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, prévenu à temps, les frères de la communauté chrétienne vont tout de suite prendre Paul, le mettre à l'abri sur un bateau et le faire partir pour le mettre à l'abri vers Athènes. Donc, bien plus loin pour qu'on ne le rattrape pas trop. Alors, Paul va partir dans l'urgence, seul. Ses compagnons, Silas et Timothée, viendront le rejoindre plus tard. Alors, nous sommes là à Athènes. Cette ville immense et célèbre, surtout pour sa vie intellectuelle. On imagine l'arrivée de Paul admiratif dans cette ville. On pourrait croire qu'il s'y promène un peu émerveillé de découvrir la splendeur. Eh bien, pas du tout. Selon les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 16, qui dit ceci, « Pendant qu'il attendait à Athènes, Paul avait l'esprit exaspéré en observant cette ville livrée aux idoles. » Ah ! Je pense effectivement qu'il a dû souffrir parce que cette ville a gardé toutes les marques de la civilisation grecque, de l'Empire grec, et en plus celle des nouveaux occupants romains, donc deux polythéismes surajoutés, donc ça ne devait pas manquer à tous les carrefours de statues et de temples en tout genre dédiés aux multiples dieux des deux cultures. Alors, évidemment, j'ai choisi une traduction qui dit l'esprit exaspéré, d'autres traductions vont dire différemment. Par exemple, la traduction œcuménique dira simplement « l'âme bouleversée ». La Bible de Jérusalem dit « l'esprit de Paul s'échauffait ». La Bible de Maretsu dit plus sobrement « le cœur rempli d'amertume ». Enfin, quoi qu'il en soit, la constatation est là. Une si grande cité qui se livre tout entière au polythéisme, cela rend Paul carrément malade. Comment ces gens, réputés tellement intelligents, peuvent-ils croire à des idoles si insignifiantes, voire pires? Sa vocation missionnaire va s'enflammer d'un coup pour essayer de faire changer les choses. Alors, comme d'habitude, son premier réflexe, se rendre à la synagogue pour aller discuter avec les Juifs. Mais là, clairement, ça ne suffit plus. Donc, il décide d'aller aussi prêcher directement sur l'agora. Alors, vous savez ce que c'est l'agora? C'est une grande place où tout se débat publiquement, tous les sujets de société, que ce soit politique, économique ou religieux, on y débat ouvertement. Donc Paul est libre d'y parler et il va y annoncer courageusement Jésus et la résurrection devant ces gens qui sont souvent très instruits, parfois des philosophes. Le texte des Actes nous dit, chapitre 17, verset 18, « Il y avait même des philosophes épicuriens et stoïciens qui s'entretenaient avec lui. » Voilà, Paul, intrigué. On disait de lui, c'est un prédicateur de divinités étrangères. Alors, les curieux sont là autour de lui. Et évidemment, les divinités étrangères, il n'en faut pas plus pour éveiller l'intérêt des Athéniens. Je vous lis le verset 21 du chapitre 17 des Actes qui dit ceci. « Il faut vous dire que tous les habitants d'Athènes et tous les étrangers en résidence passaient le meilleur de leur temps à raconter ou à écouter les dernières nouveautés. » Donc c'est un peu futile, Athènes, c'est... Voilà, les dernières nouveautés. Donc Paul en fait partie, il intéresse. Et donc le voici invité à venir parler devant l'Aréopage. Alors, qu'est-ce que l'Aréopage ? C'est une colline, en fait, consacrée au dieu Arès, le dieu grec de la guerre, et qui domine l'agora d'Athènes. En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le carré VIP. C'était là que se réunissaient tous les citoyens importants, les juges, les magistrats, les grands intellectuels, et surtout les hauts conseillers de la cité. Alors, Paul acceptera l'invitation avec enthousiasme. Il avait enfin là une occasion parfaite d'exercer son ministère d'apôtre du Christ, de convaincre tous ces grands hommes d'abandonner leurs croyances inutiles pour se convertir à la vraie foi. Et il vient donc leur parler avec toute la fougue et la sincérité dont il est capable. Et debout, au milieu de l'Aréopage, il commence une superbe prédication. Un magnifique discours que je vais garder en suspense pour la prochaine émission, mais vous allez voir que les effets de cette prédication ne seront pas vraiment ceux que Paul escomptait. Et je vous dis à présent, à bientôt, chers auditeurs, pour la suite de ce beau chemin de foi de Saint Paul.
Explore.